Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Audrey.
Bonjour Inès, bonjour à tous.
Acheter en ligne les produits des commerces de Bourg-en-Bresse, l'Union des commerçants, l'agglomération et la mairie ont lancé un service spécial en ligne. Une cinquantaine de commerçants devraient être présents sur la plateforme.
Une circulation toujours importante en ville et sur nos routes. Ce confinement est-il respecté? Nous avons suivi un contrôle de gendarmerie dans le département.
Et on commence tout de suite avec l'actualité.
Bourg, en bref.
Les retraités de l'Ain se mobilisent mardi 17 novembre. Dans un communiqué, ils dénoncent une perte de pouvoir d'achat de près de plus de 5% depuis l'arrivée du président Emmanuel Macron. Le rassemblement intersyndical aura lieu devant la préfecture à 10h30.
3919, c'est le numéro gratuit et anonyme que les femmes victimes de violences conjugales peuvent composer pour obtenir de l'aide. Du 20 au 30 novembre, le 3919 sera affiché sur la façade de la mairie de Bourg. Un affichage en lien avec l'organisation Zonta Club qui lance une campagne internationale contre les violences faites aux femmes.
Du 19 au 21 novembre, un forum de l'emploi indino est organisé en ligne. 500 postes sont à pourvoir dans la fonction publique seulement. Pour vous inscrire, c'est sur le site du département forum-emploi.1.fr.
Le département de l'Ain renouvelle ses aides aux agriculteurs. L'enveloppe de près de 5 millions d'euros est reconduite en 2021.
Des aides pour investir et préparer l'avenir, sans oublier les fêtes de fin d'année, une période clé pour plusieurs filières. Adrien Bourlès, président de la Confédération générale de l'agriculture de l'Ain.
Bref, c'est toutes les productions qu'on peut faire, on claque pas des doigts et on les met sur un marché. Il faut bien sûr les préparer, les affiner. Enfin voilà, il y a tout un travail de production en amont. Donc aujourd'hui, on a quand même des grosses interrogations sur la tenue des fêtes de fin d'année et puis tout ce qui en décline. Il y a aussi tout le côté viticole, enfin tous les produits qui sont autour de ces filières-là sont dans une crise sans précédent, sachant que c'est le deuxième confinement que l'on connaît. Tous les circuits courts sont impactés, donc sur de nouvelles modèles de commercialisation, avec des choses nouvelles qui se font, il y a quand même des volumes qui arrivent à s'écouler, mais il y a tous ces enjeux-là sur la fin d'année.
Des agriculteurs impactés par la crise sanitaire, et cette crise s'ajoute à d'autres problématiques.
On a connu les aléas climatiques, hein. La sécheresse est une réalité sur nos exploitations, un manque de compétitivité, un manque de fourrage clairement, et puis sur les céréales, sur le lait, sur la viande, les cours ne sont toujours pas adéquats avec les coûts de production, hein. Les états généraux de l'alimentation, la loi franco-française devait au moins sur le marché intérieur nous permettre de mettre en place des coûts de production qui intègrent une rémunération des producteurs. Aujourd'hui, on patine clairement pour pouvoir mettre ça dans notre économie de marché. Donc aujourd'hui, oui, on est impacté par le Covid, comme beaucoup, mais aussi par le contexte économique que l'on connaît sur la mondialisation et tous les enjeux que l'on défend au quotidien.
Moins de produits exportés, mais plus de produits consommés par les Indinois, entre 15 et 20% selon Adrien Bourlès. Les agriculteurs ont continué de travailler pendant le confinement du printemps. Les habitants ont joué le jeu et s'ouvre maintenant un autre chantier, travailler entre autres avec la grande distribution pour leur fournir plus de produits indinois et être rémunérés au juste prix. Michel Joux, président de la Chambre d'agriculture de l'Ain.
Le manger indinois qui a pu revenir, parce que c'est vrai que les gens avaient peut-être se sont remis à la cuisine pendant le confinement et ont pu s'acheter de produits locaux, et avec peut-être des opérateurs économiques dont la grande distribution, pour citer que celle-là, qui ont peut-être mis un peu plus en avant nos produits. Alors des fois peut-être pas tout à fait avec le coût de production qui va avec, mais au moins en termes de volume, et ça a permis sans aucun doute de pouvoir acheter plus local, plus indinois, et c'est quand même une chance pour l'agriculture du département et l'agriculture française de pouvoir avoir des gens qui peut-être modifient un peu leurs pratiques en termes d'achat. Et c'est vrai que par la même occasion, on a eu un peu moins d'apportations. Donc on a des gens qui ont plus mangé local et andinois.
Et pour conclure, ces derniers lancent un message à la population. Réservez le meilleur accueil possible aux volailles fines de fin d'année, poulet, poularde et dinde de Bresse.
Autre filière fortement pénalisée par ce deuxième confinement, la viticulture andinoise.
Restaurants fermés, salons professionnels, banquets et Sainte-Barbe annulés. La liste des rendez-vous manqués s'allonge. Pour aider les viticulteurs, le président du département, Jean de Guéry, va proposer à la prochaine session du conseil départemental le versement d'une aide exceptionnelle. 500 000 euros devraient être débloqués pour les viticulteurs de l'Ain. Cette somme s'ajoute au budget déjà prévu pour l'agriculture andinoise. Les éleveurs du département s'organisent pour proposer des ventes en direct pour les fêtes de fin d'année. Renseignez-vous, il y a aussi les produits du lycée agricole des Sardières à Bourg. Ces derniers sont préparés avec leurs élèves. Ils proposent par exemple des paniers gourmands et des volailles fines.
La plateforme Je veux aider est toujours active. Elle permet de donner de son temps à certaines associations. Dans l'Ain, plusieurs associations d'aide aux plus précaires ont besoin de bénévoles. C'est le cas d'Emmaüs, de la Croix-Rouge et du Secours Populaire notamment. Pour vous inscrire, c'est sur covid19.reserve-civique.gouv.fr.
Préparer son avenir, c'est le programme de la semaine des métiers organisée par l'association Juristes Jeunes. Les étudiants du campus de Bourg-en-Bresse ont décidé de faire des rencontres virtuelles avec des professionnels. C'est du 23 au 27 novembre entre 18h et 21h.
Et parmi les métiers représentés, avocat, expert comptable et Radio B participe aussi avec vous Audrey pour présenter le métier de journaliste.
Les créateurs et artisans de l'Ain et du Jura organisent un marché de Noël en ligne. Ça commence ce lundi 22 novembre et jusqu'au 15 décembre.
Une façon de soutenir l'économie locale malgré le confinement et dans l'attente de la réouverture des boutiques. Vous y trouverez des vêtements, des cosmétiques ou encore des décorations. Retrouvez l'événement sur la page Facebook « Un merveilleux Noël local ».
Après l'annulation de l'Irrégulier, festival dédié à la danse, la compagnie Passaros vous invite à une visioconférence. L'idée, partagez vos propositions pour la danse planétaire, projet participatif ouvert à tous autour de la Terre et pour la paix entre les personnes. C'est ce dimanche le 22 novembre. Plus d'infos sur leur site internet.
2 minutes, une actu.
Les commerçants sont en colère. Fermés depuis le début de ce deuxième confinement, les commerces dits non essentiels doivent se contenter de vendre par Internet quand ils ont un site. Inès, quelle est la situation ?
C'est une véritable injustice pour les petits commerçants. Les charges fixes sont toujours à payer. Loyer, abonnement Internet, électricité. Leurs employés sont en chômage partiel, financé par l'État. Et les prêts à taux zéro proposés par le gouvernement devront malgré tout être remboursés à long terme. La situation est donc tendue et surtout que pour beaucoup, la majorité du chiffre d'affaires se fait sur les deux derniers mois de l'année. Les commerçants retiennent leur souffle et espèrent donc limiter la casse avec une réouverture le 1er décembre.
Des commerçants aussi sur plusieurs fronts pour faire entendre leur voix. Par quels moyens, Inès ?
Déjà localement, samedi 14 novembre, une centaine de commerçants manifestaient devant la préfecture de Bourg-en-Bresse. Ils dénoncent la fermeture des commerces non essentiels comme les librairies, les fleuristes ou encore les magasins de vêtements. Et ça a bien sûr été le cas dans d'autres villes. La colère s'est aussi tournée vers les géants de la vente en ligne comme Amazon. Une colère que même le gouvernement a partagée. Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, a appelé au boycott de la plateforme. Et ce lundi, une tribune a d'ailleurs été publiée sur France Info et appelle à stopper Amazon. Elle rassemble plus de 100 signataires, des ONG, des syndicalistes, des citoyens ou des élus. Ils demandent une taxe sur le chiffre d'affaires de la plateforme. L'entreprise, quant à elle, tente d'apaiser les tensions. Le directeur général d'Amazon France souhaite la réouverture des petits commerces, notamment pour le Black Friday, le 27 novembre, cette journée où les promotions sont reines et qui profitent en particulier aux ventes en ligne.
Il y a aussi eu des politiques qui se sont positionnées contre la décision du gouvernement.
Le maire d'hier, dans l'Essonne, a publié un arrêté pour autoriser les commerces dits non essentiels à ouvrir. Mais l'arrêté a été suspendu par le tribunal administratif. D'autres maires ont fait la même chose, comme à Brive ou à Chalon-sur-Saône. Ils ont été retoqués par leur préfecture. L'association des maires de France s'est aussi exprimée en faveur de la réouverture des petits commerces. Ouvrir pour le Black Friday, c'est ce que souhaitent vraiment les commerçants, sous peine de laisser les plateformes comme Amazon s'enrichir à leurs dépens.
Comment le gouvernement réagit face à cette fronde?
Les réactions sont pour l'instant timides. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé ce lundi 16 novembre qu'un nouveau protocole sanitaire pour les commerces et la grande distribution devrait voir le jour vendredi 20 novembre. Un protocole qui devrait être pensé avec les fédérations de commerce. Il n'y a pour l'instant aucune date précise pour la réouverture des commerces dits non essentiels, même si Jean Castex, le Premier ministre, explique que le gouvernement l'envisage pour le 1er décembre si la situation sanitaire s'améliore. Le ministre de l'économie a indiqué de son côté que la réouverture était plus une question de jours que de semaines.
L'invité de Radio B.
Les commerçants de Bourg ne baissent pas les bras.
Ils ouvrent une plateforme en ligne de Click and Collect avec l'aide de la mairie de Bourg et de la CA3B. Un service qui peut les aider à survivre, mais qui ne fera sans doute pas de miracle. Christophe Pajot, coprésident de Centre Commerce Bourg, est venu dans notre studio pour parler de la situation financière des commerces du centre-ville. Christophe Pajot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coprésident de Centre Commerce Bourg, l'Union des commerçants de Bourg-en-Bresse, et vous êtes aussi fleuriste à cœur de fleurs à Bourg-en-Bresse. Alors, le gouvernement a décidé de laisser ouverts des commerces dits essentiels, comme les pharmacies, les dépanneurs, les magasins de produits alimentaires. Comment a été accueillie cette décision chez les commerçants de Bourg-en-Bresse ?
Eh bien, pas positivement, évidemment. C'est vrai que pour nous, ça a été un choc quand on a appris la nouvelle. Le soir où M. Macron nous l'a annoncé, on ne s'y attendait pas à ce confinement généralisé et à la fermeture des commerces de centre-ville. Donc c'était un choc pour nous.
Là, dans ces commerces non essentiels, c'est la plupart des commerçants du centre-ville qui sont concernés par cette fermeture ?
Effectivement, la quasi-totalité des commerçants sont concernés. Bon, il y a évidemment des commerces de bouche dans le centre-ville de Bourg, que ce soit des boulangeries, des boucheries, des petites supérettes. Mais ça ne représente vraiment pas l'essentiel des commerces. Les commerces sont plutôt des commerces non essentiels aujourd'hui, voilà, qui sont fermés.
Moralement, comment vous voyez cette appellation de non essentiel qui est un petit peu rude quand même pour un commerçant, sachant que c'est un peu votre vie, ce travail ?
Oui, évidemment. Bon, moi, par exemple, pour les fleurs, il y en a beaucoup qui nous disent « pour moi, c'est essentiel ». Bon, on comprend qu'effectivement, l'essentiel, c'est avant tout se nourrir. Se loger, pouvoir faire réparer sa voiture, etc. Bon, ça, on veut bien l'entendre. Maintenant, effectivement, être catalogué dans les non-essentiels et être obligé de fermer, c'est dur. Voilà, c'est dur pour tous les commerçants parce que nous n'avons plus du tout de chiffre d'affaires. Alors, on comprend qu'il faille limiter les déplacements, effectivement, des personnes pour essayer de limiter le virus. Mais alors pourquoi effectivement, enfin, on peut travailler, on peut aller à l'école, on peut aller en grande surface, mais on peut pas aller dans les petits commerces. Donc c'est vrai que là on a un petit peu de mal à comprendre. Je pense pas que ça soit dans les petits commerces qu'on attrape le coronavirus, tout simplement. Ce sont un petit peu quand même comme les boucs émissaires de cette situation. Aujourd'hui, en fait, on a l'impression d'avoir toujours respecté les règles sanitaires, les protocoles. On accepte quelques clients à la fois dans le magasin, on a du gel hydroalcoolique, on a mis des glaces devant nos comptoirs, on a le masque obligatoire, etc. Donc on a fait beaucoup d'efforts et aujourd'hui, on n'a pas l'impression d'être remercié. Et je pense qu'on aurait pu continuer avec ces protocoles-là à pouvoir accueillir nos clients. Voilà.
Et est-ce que certains commerçants ont réussi à s'adapter malgré tout, à continuer à avoir une petite activité ?
Aujourd'hui, on essaie de se battre. Nous avons la possibilité aujourd'hui de faire du drive, par exemple. Donc des clients peuvent passer commande et venir chercher leurs commandes au magasin. Nous sommes en train de développer aujourd'hui un site de click and collect, donc à travers l'association des commerçants. On travaille beaucoup avec la mairie de Bourg-en-Bresse, donc depuis cette annonce. Ils nous ont proposé de financer cette mise en place, cette application, jusqu'à au moins la fin du mois de décembre. Alors c'est vraiment de la survie, hein, parce que du click and collect, en étant très optimiste, on va peut-être atteindre 20 ou 25% de notre chiffre d'affaires. Bah, c'est pas ça qui va nous faire vivre, mais ça permet de rester présent auprès de nos clients, de garder le contact avec nos clients, d'avoir un minimum d'activité et de couvrir certaines charges. Voilà.
Donc ces charges, ce serait quoi par exemple ?
Eh ben, vous avez le loyer. Bon, le gouvernement nous annonce des aides, mais ça ne sera pas au-delà de 30%. Et encore, il faut que le bailleur soit d'accord. Vous avez tous les abonnements, que ce soit EDF, téléphone, gaz, etc. Nous avons aussi une partie des charges sociales. On nous dit qu'on est exonéré de charges sociales. Ce n'est pas faux ni vrai. En fait, les charges sociales qui sont exonérées, ce sont la part patronale. Par contre, la part salariale, elle est encore à notre charge. Il s'agit aussi surtout des URSSAF, mais pas la retraite. Voilà, donc ce n'est pas une exonération complète. Donc il y a de toute façon des charges qui courent. Et puis, il y a toutes les traites qu'on doit payer de ce qu'on a acheté les mois précédents, et en particulier pour les magasins de vêtements. Ils ont engagé donc toute la collection automne-hiver, et les traites vont arriver là ce mois-ci.
Est-ce qu'il y a des commerçants particulièrement en difficulté dans le centre-ville de Bourg ?
Alors aujourd'hui, je ne pourrais pas donner de nom sur des commerçants en difficulté. Par contre, on a énormément de commerçants qui nous contactent et qui nous disent que ça a été déjà très compliqué de passer le premier confinement et que là, ils n'en peuvent plus. Voilà, donc on sent vraiment que les commerçants sont un petit peu désespérés.
Et financièrement, vous par exemple, comment vous vous en sortez ? Comment vous faites pour survivre ?
Alors financièrement, après le premier confinement, heureusement, on a une activité qui a redémarré assez fortement, qui nous a permis de refaire un petit peu de trésorerie. Maintenant, on a aussi fait appel aux prêts d'État, des prêts à taux zéro, mais bon, c'est des prêts qu'il faudra rembourser. Donc cette avance de trésorerie, c'est bien, mais il faudra la rembourser peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an. Donc ça sera très très compliqué. Voilà, on ne sait pas très bien si on y arrivera, où on va, si les aides vont nous permettre de survivre. C'est une grande interrogation et on tire un petit peu la sonnette d'alarme parce qu'effectivement on est un petit peu désespéré à ce niveau-là.
Comment ce groupe de commerçants arrive à aider les autres commerçants ? Donc vous avez parlé du click and collect.
Voilà, alors on essaie de les aider par le click and collect. Donc là, c'est quelque chose de très concret qui, j'espère, va leur être utile. Après, on fait beaucoup d'informations. On reçoit effectivement des mails un peu de toutes parts, que ce soit de nos comptables, du gouvernement, de la CCI, de la Chambre de commerce, etc. Donc on transmet tous ces mails et puis on est surtout un partenaire actif avec que ce soit la mairie, que ce soit l'agglo, que ce soit la CCI, la Chambre des métiers, donc toutes ces entités qui peuvent nous aider. Voilà, donc nous on est en réunion très régulièrement avec toutes ces entités.
Merci beaucoup Christophe Pageau. Je rappelle que vous êtes coprésident de Centre Commerce Bourg, l'Union des commerçants de Bourg-en-Bresse, et aussi fleuriste à cœur de fleurs à Bourg-en-Bresse.
Merci à vous.
Et pour soutenir vos commerçants, rendez-vous sur le site www.ccbourg.fr. Vous pouvez choisir les articles qui vous intéressent en ligne et les récupérer en boutique. Pour l'instant, une vingtaine de commerçants sont présents sur la plateforme. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ce matin ?
Ce matin, entretien de vélo, changement de chaîne, nettoyage de transmission.
On va d'abord commencer par faire la bague. D'accord ? Vous voyez là derrière au fond, loin, il y a une bague.
En reportage avec Radio B.
Au péage de Pérouges, plus d'une dizaine de gendarmes ont réalisé des contrôles d'attestation, mais aussi de permis et d'alcoolémie. La préfète était aussi sur place. Nous les avons suivis au milieu des passages des camions et des voitures.
Contrôle généralement, je vais couper le moteur, s'il vous plaît. Je m'en ai aussi de sortir l'attestation pour le déplacement.
Bonjour madame.
Bonjour.
Vous vous déplacez pour
consultation médicale.
D'accord.
Je vous rends votre attestation.
Merci.
Marie-Alexandra.
J'avais une consultation médicale d'un rendez-vous pris il y a environ un mois. Donc le médecin assurant ses consultations, j'ai maintenu mon rendez-vous.
Catherine. Et jusqu'à présent, je n'avais jamais été contrôlée, y compris pendant le premier confinement. Le premier confinement, comme je ne sortais pas, c'était normal. là, oui, je trouve que c'est une bonne chose, on en avait peut-être besoin. Il y a peut-être aussi, oui, simplement des gens qui font le pari qui ne sont pas contrôlés. Hein. Ça serait bien que les contrôles soient plus fréquents.
Je sors du boulot, je vais à la banque.
Oh, ok. Je vais vous demander votre attestation de déplacement, s'il vous plaît. Ok, c'est tout bon.
Je vais à ma banque et après je reviens. Il faut que je remplisse l'attestation encore.
La même a fait pour les deux.
La même a fait pour les deux. Ok.
Je suis le capitaine Ruby Sébastien et je commande en second l'escadron départemental de sécurité routière de l'Ain. Nous, c'est pas verbalisé qui nous importe, c'est que les gens comprennent qu'on est dans une crise planétaire, que la France est particulièrement impactée par cette deuxième vague et qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est diffusé par les médias, il y a les explications pour l'attestation. Donc déjà, si elle n'est pas bien remplie, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, on essaie de voir. Maintenant, si c'est de la mauvaise volonté, on s'en rend assez rapidement compte et dans ce cas-là, il n'y a pas d'indulgence. Dans ce cas-là, on le verbalise. Maintenant, si la personne n'a pas causé la bonne case, met son attestation à des créneaux horaires et des dates qui correspondent, on essaie de comprendre ce qui s'est passé et on essaie d'avoir un message pédagogique en leur expliquant que ben, voilà, dans ce tel cas, ce n'est pas cette case qu'il faut cocher, mais c'est l'autre. Mais ça arrive peu.
Et donc, s'il n'y a pas du tout de document, qu'est-ce qui se passe?
On le verbalise sur le champ. Pas de document, on verbalise. Il n'y a pas d'indulgence. C'est fini. Ça fait 8 mois qu'on est en crise. Cette deuxième vague est beaucoup plus violente que la première. On se rend compte que le taux d'incidence entre 800 et 900 actuellement dans l'Ain, c'est trop important. On est l'un des départements les plus impactés, les plus touchés. Et si on veut pouvoir sortir de cette crise, en tout cas limiter cette propagation, il faut se déplacer avec l'attestation. Les gens qui n'ont pas l'attestation, c'est des gens qui font preuve de mauvaise volonté.
Là, vous pouvez nous dire, cet après-midi, il y a eu des verbalisations et sur quoi elles ont eu lieu? Pourquoi il y a eu des verbalisations?
Ben là, nous avons 3 verbalisations pour non-présentation d'attestation. Tout simplement. De la mauvaise volonté, voire de la mauvaise foi des contrevenants. On a les moyens aujourd'hui d'avoir une attestation, pas forcément papier. Et puis, ils l'ont téléchargée et ils nous la présentent avec un QR code. Nous, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on n'a pas à toucher de documents papier. On ne touche pas le téléphone portable. On a juste à scanner un QR code et on sait si l'attestation s'affiche sur le téléphone et on sait s'ils l'ont ou pas.
Donc trois personnes verbalisées en deux heures à peu près, c'est correct, c'est quoi?
On se rend compte que c'est une minorité et on se satisfait, alors pas d'avoir verbalisé, parce que nous le but c'est pas de verbaliser, c'est de faire comprendre aux gens, encore une fois, c'est de faire comprendre aux gens qu'il faut respecter les règles pour limiter la propagation du virus. Là, 3 sur 2 heures sur 60 contrôles, c'est infime et on espère arriver à zéro.
Catherine Sarlandi de la Roberti, préfète de l'Ain, est aussi sur place pour ce contrôle de la gendarmerie.
Est-ce que vous pouvez résumer les enjeux de ces contrôles en fait? C'est quoi l'enjeu pour le département?
L'enjeu pour le département, c'est que nous sommes dans un département où la situation s'aggrave très rapidement en ce qui concerne la diffusion de la Covid-19, avec plus d'une centaine de décès pour la seconde vague. Avec des lits de réanimation qui ont été doublés partout, mais il nous faut aussi des soignants, il nous faut du monde, les soignants sont aussi fatigués, je voudrais à nouveau les saluer pour leur engagement. Les personnes âgées, nous avons quand même des EHPAD où il y a plus de 100 cas positifs, donc nous devons absolument protéger nos aînés, mais le virus, il est partout à l'heure actuelle, il peut toucher tout le monde, donc il faut absolument respecter ce confinement. Eh bien, pour sauver la vie de nos concitoyens et aussi espérer que le confinement dure le moins longtemps possible. C'est aussi le but. Là, l'objectif par le président de la République, c'est le 1er décembre. Il nous faut absolument réussir pour que cette tendance haussière se stabilise et baisse, que la tendance soit maintenant à la baisse, la tendance de progression du virus. Nous sommes à un taux de près de 900 pour l'incidence. Donc c'est vraiment énorme par rapport à d'autres départements. Et on est à plus de 30% de positivité par rapport à 20% en moyenne nationale. Donc il faut absolument être vigilant. Et donc nous faisons ces contrôles parce qu'il ne faudrait pas qu'une minorité qui ne respecte pas le confinement eh bien mette en danger les efforts et même les sacrifices consentis par le reste de la population.
Et si vous êtes un peu perdu avec l'utilisation de ces attestations, le capitaine Sébastien Ruby vous explique tous les cas de figure.
Est-ce que vous pouvez expliquer, donc par exemple, on va au travail, qu'est-ce qu'il faut comme document?
Il faut déjà une attestation employeur et également une attestation de déplacement. Voilà, comme ça vous avez les deux. Quand vous allez chercher vos enfants, vous avez une attestation de déplacement plus l'attestation scolaire. Ça, c'est important. Voilà. Après, pour tout autre déplacement, une seule attestation suffit. En cochant la bonne case, si c'est pour des produits de première nécessité, si c'est pour aller faire une activité sportive dans la limite d'un kilomètre autour de son domicile, une heure maximale. Voilà. Donc vous avez plusieurs cases à cocher. Ou après, les déplacements, c'est pour cas familial particulier.
Pour les emplois où on bouge beaucoup, donc que ce soit des réparateurs, des plombiers, des infirmiers, comment ça se passe? Parce qu'ils vont à plein d'endroits différents en fait.
Bah, généralement, il faut une attestation pour la journée. Hein. Il faut une attestation. Encore une fois, ce sont des gens qui travaillent, qui justifient leur travail. Ils ont une activité professionnelle. S'ils sont à leur propre compte, notamment tout ce qui est auto-entrepreneur ou autre, ils vont faire une attestation comme quoi ils travaillent. Ils justifient leur activité. Voilà. Donc ça, c'est important.
Donc on le remplit le matin.
On remplit le matin et ils l'ont pour la journée, bien évidemment. Mais elle est valable une seule journée, elle est valable sur une période de 24 heures. Voilà. Après, forcément, quelqu'un qui me dit qu'il va au travail alors qu'il est minuit et qu'il fait du travail de plomberie dans la journée, c'est pas justifié. Maintenant, il y a des gens qui travaillent la nuit. Il y en a moins, hein, parce que l'activité est réduite, mais il y en a encore qui peuvent travailler de nuit. Donc une attestation. Ils sont tranquilles. Ils justifient de leur déplacement. En fait, le but, c'est de justifier le déplacement. Et nous, forces de l'ordre, contrôler que les gens se déplacent de manière légale et qu'ils sont obligés de se déplacer surtout. Voilà, sinon, eh bien, ils restent chez
eux. Tout à l'heure, on a vu le cas de quelqu'un qui avait un rendez-vous médical. Donc à ce moment-là, il faut quoi comme papier?
Il faut une attestation dans laquelle on coche la case où il y a marqué rendez-vous médical. Ça, c'est indispensable.
Et il faut un justificatif aussi du médecin ou pas?
Non. Non, juste l'attestation en disant qu'on a rendez-vous chez le médecin. Après, si on veut justifier vraiment être puriste, il y a des applications pour ça sur lesquelles on peut justifier qu'on a un rendez-vous. Mais après, on ne peut pas tout vérifier. Les gens doivent faire preuve de bonne foi, hein, et on compte sur la discipline de chacun et la responsabilisation de chacun.
C'était le capitaine Sébastien Roubi du groupement de la gendarmerie départementale de l'Ain.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Belle semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnondi.